Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi. Avec, à la une, des actions en justice par dizaines contre le groupe de maisons de retraite Korian. Les familles dénoncent des mauvais traitements. Nos informations avec Yasmina Katou. Si votre salaire suit l'inflation, si vous avez droit à une augmentation du même niveau que l'inflation, vous ne paierez pas plus d'impôts l'année prochaine, promet Bruno Le Maire. Comment est-ce possible? Que prévoit le gouvernement exactement? On verra ça avec Carole Ferry. On va vous parler également dans Europe Midi de la maison de l'horreur, la maison de Marc Dutroux à Charleroi, en Belgique. Elle est détruite. Un mémorial sera érigé à la place pour ne jamais oublier ce que le monstre pédophile a fait subir à ses petites victimes. La journée mondiale de l'océan, journée spéciale sur Europe 1. On va en parler avec vous. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le 3921, vous témoignez. Et on est aujourd'hui avec Raphaël Deandréis. Bonjour Raphaël Deandréis.
Bonjour.
Vous êtes avec Bertil Scali, l'auteur d'un thriller écologique de science-fiction. Ça s'appelle Mer, M-E-R, bien sûr. Ça se passe à Bordeaux en 2100, Bordeaux sous les eaux, à cause du réchauffement climatique. On va en parler dans un instant. À tout à l'heure.
Europe 1.
Après le scandale Orpea, c'est le groupe de maisons de retraite Korian qui est dans le viseur de la justice. 30 plaintes déposées devant une dizaine de parquets en France pour des faits de maltraitance. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour Romain.
Ces actions en justice émanent de plusieurs familles de résidents. Hein.
Oui, 18 familles de résidents ont annoncé le dépôt d'une trentaine de plaintes au total. Des plaintes contre X pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire. Le groupe Korian est visé aux quatre coins de la France puisque les parquets de 12 régions différentes ont été saisis. Entre autres, Aix-en-Provence, Bobigny, Bourges, Marseille ou encore Nantes. Maître Daoud, qui représente le groupe des PAD Korian, confie qu'il n'était pas au courant de ces plaintes.
Nous n'étions pas au courant du contenu de ces plaintes. Donc nous l'avons appris à la lecture du Parisien. Et ce sont des dossiers, pardon pour cette formulation, qui sont des dossiers douloureux dans lesquels les familles n'ont pas accepté les explications qui avaient été données par Korian à la suite d'une réclamation, non pas pénale, mais d'une réclamation d'un membre de la famille.
Maître Daoud assure que le groupe Korian se tient à disposition de la justice pour répondre à toutes les questions nécessaires.
Merci beaucoup Yasmina. Et puis on le disait il y a quelques minutes, hein, cette nouvelle affaire fait suite au scandale Orpea, autre groupe d'EHPAD accusé de gestion chaotique dans ces établissements. Et bien ce matin, une vingtaine de perquisitions ont eu lieu au siège d'Orpea et dans ses directions régionales. Le gouvernement continue d'encourager les entreprises à augmenter les salaires face à l'inflation. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, promet ce matin que les salariés qui verront leurs revenus augmenter cette année ne paieront pas davantage d'impôts en 2023. Carole Ferry, on a besoin de vos lumières. Bonjour Carole.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Comment Bercy compte-t-il s'y prendre?
C'est très simple, hein. Bercy va indexer le barème de l'impôt sur l'inflation. Le barème de l'impôt, c'est le montant de revenu annuel qui vous fait passer d'une tranche d'imposition à la suivante. Donc si vous relevez ce montant, eh bien une augmentation de salaire à hauteur d'inflation ne vous fait pas automatiquement passer dans la tranche supérieure et donc payer plus d'impôts. Alors ce n'est pas un cadeau du gouvernement, c'est la règle en vigueur. Il y a eu par le passé quelques exceptions. Le gouvernement Hollande avait choisi par exemple de ne pas suivre cette règle en 2012 et 2013. Là, Bruno Le Maire l'assure, il n'y aura pas d'exception en 2023. Pas question de mettre en place un impôt déguisé, nous dit-on à Bercy. Attention, cela concernera les impôts de 2023, donc calculés sur les revenus de 2022.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. Et puisqu'on parle d'impôts, la date butoir pour déclarer ses revenus 2021, donc de l'année dernière, c'est aujourd'hui pour la dernière zone où c'est encore possible, à savoir dans les départements numérotés de 55 à 95, ainsi qu'à La Réunion et à Mayotte. Depuis hier, les eurodéputés sont réunis pour voter plusieurs lois qui ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2050. On appelle cet ensemble le paquet climat. Maud Descamps avec nous. Bonjour Maud.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Et aujourd'hui au Parlement européen, l'un des textes phares est présenté. Il prévoit d'interdire la vente de voitures thermiques, essence diesel et hybrides rechargeables dès 2035. Cette proposition ne fait pas l'unanimité.
Oui, en fait, il y a deux options sur la table. Une partie des eurodéputés propose que 100% des voitures qui ne respectent pas le zéro émission de CO2 soient interdites à la vente d'ici 2035. D'autres fixent la limite à 90%, mais sans date d'interdiction totale. Cela va donc se jouer à quelques voix, me confiait hier un des membres du Parlement européen. Et puis, autre mesure phare de ce paquet climat, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières. C'est une mesure historique. Le principe est simple, imposer un surcoût aux produits qui sont importés dans l'Union européenne, surcoût calculé en fonction des émissions de CO2 que cette production a générées. Pour l'eurodéputé Pascal Canfin, c'est un changement majeur de positionnement de l'Europe sur le climat.
C'est un changement de logiciel très clair, de mentalité, d'approche de l'Europe sur le sérieux climatique. Nous, on ne peut pas être les seuls à être sérieux sur le plan climatique avec le reste du monde qui ne le ferait pas. Si en même temps, on n'assure pas des conditions loyales de concurrence, si on n'assure pas une lutte contre le dumping climatique, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on se tire une balle dans le pied puisqu'on dit à nos industriels, vous, vous payez, mais pas vos concurrents.
Alors ce texte devrait être voté par une majorité d'eurodéputés aujourd'hui. Une fois les 8 textes votés au Parlement, il faudra ensuite qu'ils soient validés par l'ensemble des 27 pour être mis en application.
Maud Descamps, merci beaucoup Maud. Et à propos de voitures électriques, on va parler de la protection des fonds marins qui regorgent de métaux utiles pour les batteries. On vous en parle toute la journée sur Europe 1, des fonds marins de la mer à l'occasion de la journée mondiale de l'océan. L'exploitation des ressources dans ces zones est en cadré juridiquement. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est encadré juridiquement, mais de manière plus ou moins stricte selon que l'exploitation des ressources soit soumise au droit international ou à celui des États dont elles dépendent. Expliquez-nous.
Alors effectivement, il faut distinguer deux régimes de protection. Le premier concerne les eaux profondes situées jusqu'à 500 km des côtes. Ces zones sont appelées plateaux continentaux et elles sont soumises aux juridictions des pays les plus proches et donc aussi à leur bonne volonté écologique. C'est ce qu'explique l'avocate en droit de la mer, Virginie Tassin-Campanella.
Les zones plus proches des côtes sont beaucoup moins observées, on a beaucoup moins de connaissances sur les activités qui existent et les États ont tendance à utiliser cette zone vraiment comme un réservoir où on va dire piocher les ressources minérales comme ils le souhaitent. Et c'est eux qui décident de leur politique minière et de la politique environnementale. Donc il y a plus de risques, d'autant plus que en fait les ressources, vu qu'elles sont plus proches des côtes, elles sont forcément plus facilement accessibles.
Et l'autre régime encadre lui les fonds marins en haute mer, qui sont des territoires plus lointains qui appartiennent à tout le monde. Ils relèvent donc du droit international qui est régi par l'autorité des fonds marins. C'est une institution de l'ONU. Cette législation est cependant encore un chantier pour les métaux. Un code minier est attendu pour 2023, mais on peut espérer que là, les garanties environnementales soient plus fortes que les juridictions nationales.
Merci beaucoup Louise Salé. Voilà, et on va continuer dans un instant à reparler de cette journée mondiale de l'océan. Notez au sujet du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, après les plaidoiries des parties civiles, place à l'accusation. Aujourd'hui, les trois représentants du parquet national antiterroriste auront la parole jusqu'à vendredi, début donc de la dernière ligne droite pour ce procès historique dont le verdict est attendu à la fin du mois. Il est midi 9. Restez bien avec nous. Dans un instant, vous allez entendre le maire de Charleroi. La maison de l'horreur, la maison de Marc Dutroux, est détruite en ce moment même. Elle va laisser la place à un mémorial. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
On l'appelle la maison de l'horreur, celle de Marc Dutroux, dans laquelle le pédocriminel belge multirécidiviste a séquestré et même tué certaines de ses victimes entre 1995 et 1996. La maison était restée en l'état depuis l'arrestation de Dutroux, mais la ville de Charleroi, en Belgique, où elle se trouve, a commencé hier sa démolition, exception faite des caves où étaient séquestrées les victimes au cas où la justice aurait besoin d'effectuer de nouvelles analyses. Un mémorial dédié aux victimes de la pédophilie sera érigé sur le terrain vide. Écoutez les explications pour Europe 1 de Paul Magnette, il est maire de Charleroi.
C'était un long débat puisque ça fait 25 ans et donc on a voulu vraiment prendre le temps, réfléchir avec les parents. Et puis finalement, le projet d'un jardin de mémoire d'un lieu fleuri, d'un lieu naturel, avec un socle en briques vernissées, blanches, couleur de la pureté, de l'innocence et de l'enfance. Tout ça a été globalement très bien accepté par les voisins et les riverains. À la demande des parents, on va conserver les caves où les petites filles ont été enfermées et où elles ont perdu la vie. Ce ne sera pas du tout accessible, ce sera dissimulé sous une dalle fermée complètement. Mais si on devait y accéder, ce n'est pas irrémédiable, quoi.
Voilà le maire de Charleroi, Paul Magnette, interrogé par Victor Pourcher. C'est une vieille histoire qui refait surface aujourd'hui avec deux anciens amis devenus ennemis. Michel Platini et Sepp Blatter sont sur le banc des accusés ce matin au tribunal de Bellinzone en Suisse. Les deux anciens boss du football international doivent répondre de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres pour un paiement présumé déloyal de 2 millions de francs suisses, c'était en 2011, au bénéfice de Michel Platini. Johan Tritz avec nous, bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Vous couvrez le procès pour Europe 1. Les deux hommes sont arrivés confiants, vous nous dites ce matin.
Oui, confiant, mais pas ensemble. Hein. Pourtant, les deux hommes sont bien logés dans le même hôtel, à un 5 étoiles avec vue sur le lac Majeur situé pas très loin du tribunal, où tout à l'heure, Sepp Blatter devrait être entendu. Mais avant cette prise de parole, il était plutôt optimiste sur l'issue de ce procès.
Si je n'étais pas confiant le premier jour, ça serait mauvais. Mais je suis très confiant. Et maintenant, je dois me défendre un peu. Mais je me défendrai bien parce que j'ai la conscience tranquille.
S'il ne parle pas aujourd'hui, Michel Platini est bien présent pour assister au débat en allemand. Une traduction a été demandée pour sa compréhension. Une barrière de la langue qui n'a pas empêché à la défense de s'entendre sur un point. Elle a demandé en préambule la suspension de la procédure. C'est la présence de la FIFA qui embête notamment Dominique Nélène, avocat de Platini. Elle ne doit pas figurer en tant que plaignante contre deux de ses anciens dirigeants. L'instance mondiale du football se sent pourtant à sa place et surtout lésée dans cette affaire. Le contrat n'a jamais été discuté au sein de l'association. Elle n'a jamais accordé le paiement. Ces deux hommes l'ont décidé seuls, explique son avocate. Une position qui rapproche Michel Platini et Sepp Blatter, pourtant rivaux et qui ne se parlent plus depuis des années. Tout à l'heure, sourire aux lèvres, les deux hommes ont discuté un petit moment ensemble lors d'une courte pause. La séance du jour s'arrêtera aujourd'hui autour de 13h30 car le Suisse de 86 ans est trop fatigué pour tenir plus longtemps. Le procès reprendra demain. Ce sera au tour du Français de s'exprimer.
Merci beaucoup Johan. Sepp Blatter, donc entendu aujourd'hui. Platini demain. L'une des légendes du football français s'est rattrapé donc par cette affaire judiciaire. Il va tenter de se défendre. Il avait évoqué au micro d'Europe 1 le scandale qui lui vaut donc ce procès aujourd'hui. Écoutez, c'était en janvier dernier dans Europe 1 Sport avec Jacques Vendroux et Jean-François Pérez.
Bah, ils m'ont banni pendant 4 ans. Hein. Attends, ça va. Je l'ai toujours là. Hein. C'est bon. Et je me bats toujours et je lâche rien. Et à la fin, je gagnerai, vous.
Pour en dire deux mots ?
Parce que j'ai rien fait de mal. On m'a viré. On a inventé un arriéré de salaire, un truc bidon, de la corruption, de la truc... C'est incroyable tout ce qui m'est tombé sur la tête. Le but, c'était me virer. La Suisse m'a viré. Entre la FIFA, les procureurs là-bas, ils m'ont viré. Voilà, ils ont inventé un truc pour pas que je sois président de la FIFA. Point final. C'est l'injustice qui m'a perturbé. C'est l'injustice. Quand on vous traite d'escroc, de corrompu, de blanchisseur d'argent, etc., c'est terrible. C'est terrible. Tu sais pas ce qui t'arrive. Tu prends dans la tronche et tu peux pas. En plus, on était en haut de la pyramide. C'est comme Icar. Tu t'arrives et t'as les ailes qui te brûlent.
Voilà, Michel Platini, donc en janvier dernier sur Europe 1 avec Jacques Vendroux et Jean-François Pérez. Cette information tombée il y a quelques instants, grève à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Demain, un quart des vols annulés demain matin à cause d'une grève surprise. Un quart des vols annulés demain matin donc à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, bien sûr, à cause d'une grève surprise. La météo, Anissa Haddadi avec les averses qui deviennent orageuses, Anissa hein.
Oui, et en particulier entre le Massif central et la frontière belge. C'est là que les averses vont vraiment devenir orageuses cet après-midi. Ça concerne la Bourgogne, la région parisienne et le centre. Sur le quart nord-ouest, là, ça s'arrange. Entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, le temps redevient sec cet après-midi et les éclaircies sont même de retour. Les averses sont de plus en plus rares également sur la moitié sud, au bord de la Méditerranée. En revanche, le ciel se couvre. Le soleil est bien moins radieux cet après-midi que ce matin. Côté température, il fait un petit peu
peu plus frais qu'hier. On a 18 degrés à Charleville-Mézières et à Aurillac, 20 pour Caen et Annecy, 21 degrés à Paris et Limoges, 23 à Strasbourg et à Lyon, 26 pour Perpignan et 28 la maximale à Marseille ou encore Montpellier.
Merci beaucoup Anissa. Il est midi 16. Restez bien avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. On va parler dans un instant de la journée mondiale de l'océan organisée par les Nations Unies. On en parle avec vous. Vous appelez le 3921 et vous témoignez. Et on est aujourd'hui avec Raphaël De Andréis, co-auteur du livre Mer, un thriller écologique de science-fiction. Je lui demanderai s'il est d'accord avec ce terme dans un instant, juste après la petite pause pub. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 20, c'est Europe Midi. Et vous avez reconnu évidemment la musique du Grand Bleu, signée Éric Serra. On a tous les images de ce film en tête. Tout est dit dans le titre, le Grand Bleu, le ciel, la mer, tout y est magnifique. Mais depuis 1988, date de la sortie du film, depuis 34 ans, rien ne va plus. La mer, les océans sont de plus en plus pollués. Ça remonte à avant 88, bien sûr, mais ça ne s'est pas arrangé depuis. Et à cause du réchauffement climatique, le niveau de l'eau monte. Et c'est le point de départ de votre livre, Raphaël De Andréis. Bonjour.
Bonjour Romain.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous venez d'écrire avec et de publier avec Bertil Scali un thriller écologique de science-fiction, on espère. Ça s'appelle Mer, M-E-R bien sûr. Ça se passe à Bordeaux en 2100. Bordeaux devenue une cité lacustre parce que l'eau est montée et Bordeaux est sous les eaux. Vous êtes d'accord, thriller écologique de science-fiction, tout est là en réalité. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est ce qui nous pend au nez?
Nous, ce qui nous intéresse beaucoup avec Bertil, on avait écrit R précédemment, qui est un sujet un peu connexe, mais avec Mer, c'est de s'appuyer sur des projections scientifiques et puis ensuite de tirer le fil en disant, voilà, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens qui liront ce livre verront au début une carte qui montre les projections de montée des eaux de manière absolument scientifique et indiscutable. Et on voit bien que la région de Bordeaux, comme beaucoup de régions littorales dans le monde, se retrouve aux premières loges. Donc, science-fiction, oui, si on agit fortement, lourdement, et sinon, non. Et sinon, tout simplement, projection vers le futur. Donc, c'est une vraie bonne question.
Un roman d'anticipation. Effectivement, cette carte est inquiétante, extrêmement parlante. La Bretagne redevient une île. La mer monte jusqu'à la Roche-sur-Yon, jusqu'au Mans. Bordeaux est donc sous les eaux. Bayonne est au bord de l'eau. La Rochelle, rayée de la carte. Bon, je vous laisserai découvrir. Pourquoi avoir choisi ce thème de la montée des eaux?
Nous, ce qui nous passionne avec Bertil, quand on écrit nos romans, c'est de faire des sujets, des thrillers écologiques. C'est-à-dire, en gros, d'écrire des histoires qu'on espère très prenantes, très distrayantes, mais qui laissent un arrière-goût un petit peu amer, on l'espère en tout cas, sur les enjeux écologiques. Et donc, le premier était sur l'avènement d'une dictature écologique, R, et celui-là est sur un autre phénomène qui est la montée des eaux, le réchauffement climatique, qui crée au fond deux phénomènes. À un bout de la planète, des feux de forêt, des feux incroyables, puisque c'est le point de départ de notre livre. L'Australie qui brûle, qui jette sur les routes de l'exil des Australiens riches, et qui tout d'un coup, vous avez beau être riche, quand ça brûle, qui se jettent, qui partent d'ailleurs avec ironie un peu dans une espèce de grand voilier de yacht et qui échouent, si je puis dire, à Bordeaux, qui est une cité qui ressemble plus à Venise et dans laquelle, au fond, ces pauvres gens vont disparaître les uns après les autres, ce qui fera le début de l'enquête. Et donc, on essaye de tirer les gens avec un fil d'enquête, de rebondissement, j'espère très haletant. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Et en même temps, tout ça est sur un fond de décor qui montre qu'on ne peut pas séparer l'humanisme et l'écologie.
Ce qui est fou, c'est qu'on s'aperçoit dès les premières pages de votre livre que les conséquences de cette montée des eaux sont innombrables. Géographiques, bon, bien sûr, on vient de le voir avec la carte, mais aussi économiques, politiques aussi.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez finalement l'humanité dans une espèce de mode de survie, plus rien ne tient. C'est le chacun pour soi. Les puissants arrivent à se débrouiller un peu mieux en exploitant les autres. Vous vous retrouvez aussi avec des gens qui étaient plutôt du bon côté, je dirais, du monde, si j'ose dire. On prend l'exemple d'Australiens, là encore, des gens avec des belles maisons, des belles voitures, des machins. Bah, quand ça brûle, ça brûle. Donc vous avez une espèce de, comme ça, de choc très violent qui permet aussi au lecteur de se dire, bah, tiens, le migrateur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre livre, bah, ça pourrait être moi.
Donc, mais ce ne sont pas des migrants. Hein.
On les a appelés les migrateurs que, voilà, pour décaler un tout petit peu le sujet, ça pourrait être moi. Et effectivement, quand le monde est submergé, plus rien ne tient. D'ailleurs, les gens se re-régionalisent. Bordeaux est quasiment un district indépendant. La corruption est au sommet parce qu'il n'y a plus assez à manger, plus assez d'espace pour vivre. Voilà, parce que les rendements autrefois du vin, en l'occurrence, ça se passe aussi dans le milieu viticole, ne sont plus les mêmes parce que y a de l'eau salée dans la terre. Et finalement, le pire de l'humanité refait surface quand le reste est submergé.
Beaucoup d'appels au 39-21. On va commencer avec vous, Patricia. Vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Bonjour, Patricia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vouliez témoigner dans Europe Midi sur ce sujet de l'océan, du réchauffement climatique, de la montée des eaux. Et vous dites, selon moi, les déchets sont à l'origine de tout.
Ben oui, c'est une grande chaîne. Et je pense que le démarrage de la chaîne, ce sont les déchets. Il faut savoir que les océans captent beaucoup plus de CO2 que les arbres, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais je pense que vos intervenants seront d'accord avec moi.
Oui,
ensuite,
tout à fait.
Plus de la moitié des filets dérivants sont en plastique, en plus des déchets de chacun. Donc ça, tous ces plastiques se retrouvant dans l'océan, la faune et la flore en pâtissent, les animaux mangent ces plastiques, et à un moment où on va détruire la faune et la flore, eh bien, on aura un énorme problème de CO2, et de là, toute l'escalade, les océans qui vont... Évidemment, se déverser dans les villes. Pourquoi ? Parce que les banquises vont fondre, etc., etc. Mais au démarrage, c'est effectivement les déchets.
Au démarrage, les déchets. Vous, vous sentez concerné ou pas quand vous entendez Raphaël De Andréis qui a écrit le livre Mère, ouais. Qui dit c'est pas uniquement au bout du monde pour des pays pauvres, hein, c'est pour tout le monde.
Pas du tout. Ça nous
est tous égaux face à cette crise.
Et là où on va être beaucoup plus concerné, c'est que toutes ces îles qui vont être qui vont disparaître, où vont aller ces personnes, où vont aller toutes ces populations, eh bien, elles viendront chez nous.
Ah bah oui.
Et je ne sais pas comment on pourra gérer tout ça. Donc on est directement concerné par ce problème. Je remercie Raphaël d'avoir écrit ce livre. Je lui achèterai d'ailleurs parce que je vais le lire.
Merci madame.
Je vous en prie. Et je voudrais que les personnes réalisent vraiment que plus que les arbres, les océans captent le CO2. Et c'est très, très, très important parce que si on détruit nos océans, ça va être vraiment une catastrophe planétaire.
Merci beaucoup. Merci, Patricia, d'avoir témoigné. Beaucoup d'appels au 39-21. Vous continuez à témoigner. On en parle de ce réchauffement climatique. Tiens, la température moyenne des océans en 2020, 14,4 degrés. Elle était de 13,8 il y a 20 ans. Ça monte, ça monte, ça monte. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h31, merci d'être avec nous dans Europe Midi. On va continuer à parler des océans, c'est passionnant, avec vous au 39-21 et avec Raphaël De Andréis qui a écrit le livre Mère. Mais tout de suite, c'est le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Émilie Dez.
Le siège et les directions régionales d'Orpea perquisitionnés. Le groupe est soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics. Le titre Orpea a chuté de plus de 5% à la Bourse de Paris. C'est près de 9% de chute pour l'action Korian, également dans le viseur de la justice. Plusieurs familles de résidents lancent une action collective. 30 plaintes ont déjà été enregistrées, notamment pour homicide involontaire. Il avait appelé les entreprises à augmenter les salaires face à la hausse de l'inflation. Bruno Le Maire assure aujourd'hui que les Français qui ont été augmentés ne paieront pas plus d'impôts. Le ministre de l'économie promet que le barème de l'impôt sur le revenu sera indexé sur le revenu de l'inflation pour éviter que ça n'arrive. arrive. En Ukraine, les combats se poursuivent à Severodonetsk, cette ville clé du Donbass bombardée 24 heures sur 24. Les forces ukrainiennes vont peut-être devoir se retirer, regrette le gouverneur local. En Allemagne, une voiture a percuté des passants ce matin dans le centre de Berlin. Une personne a été tuée et 8 autres blessés. Le conducteur a été interpellé. Et puis un quart des vols annulés demain matin à Paris-Charles de Gaulle. Les personnels de l'aéroport sont en grève. Ils réclament des hausses de salaire.
Merci beaucoup Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
Charles Trenet, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. On connaît tous ces paroles, évidemment. Aujourd'hui, un chanteur réaliste ajouterait des reflets d'argent et des reflets de plastique. La mer et les océans, on en parle aujourd'hui sur Europe 1 en cette journée mondiale de l'océan organisée par les Nations Unies. On est avec vous au 39-21 et avec vous, Raphaël Deandréis, auteur avec Bertil Scali d'un thriller écologique d'anticipation de science-fiction, MER, M-E-R, qui se passe à Bordeaux en 2100. On va aller à Bordeaux dans un instant. Il y a Frédéric qui nous a appelé d'Arcachon. Il y a plusieurs chiffres, Raphaël Deandréis, qui m'ont frappé en préparant cette émission. Il y a notamment celui-ci. 11 millions de tonnes de plastique sont chaque année rejetées dans la mer. 11 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans la mer. Vous qui, en plus d'être écrivain, êtes au comité exécutif d'Avas, président d'Avas Europe du Sud, bref, un grand dirigeant d'un groupe de communication. Quand on communique aujourd'hui, quand une marque communique aujourd'hui, comment vous prenez en compte ces problématiques ?
Bah d'abord, moi, ce qui me marque, c'est, et c'est relativement récent, on ne va pas faire de langue de bois, c'est la sincérité des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de même qu'il y a eu la transformation digitale qui est encore à l'œuvre, mais qui, depuis 10 ans, structure toutes les transformations des entreprises, aujourd'hui, la transformation écologique, notamment, pas sociale aussi, mais écologique notamment, est absolument centrale. Donc ça veut dire que les entreprises... C'est pas qu'un sujet de communication, c'est surtout pas qu'un sujet de communication, c'est un sujet de transformation de leur modèle. On parle des mots barbares comme le nearshoring. C'est quoi le nearshoring ? C'est je vais avoir plus. Ça s'oppose au offshoring, qui est aussi un autre mot barbare en management, qui dit en gros je faisais faire très loin fabriquer mes produits et je les faisais venir et ensuite, avec ce que ça comporte parfois de dépenses de CO2, je faisais ça moins cher, quitte à avoir plein de stocks, quitte à détruire plein de trucs. Et aujourd'hui, entre les enjeux de réactivité du stock, entre les enjeux de CO2 et le fait qu'on n'ait quasiment plus le droit de détruire l'excès de production, on voit bien que typiquement, voilà un exemple très concret d'entreprises qui veulent fabriquer plus près pour pouvoir moins détruire et avoir moins de dépenses de CO2 dans le transport. Voilà un exemple, il y en a plein d'autres, mais ce qui me marque, c'est la sincérité des chefs d'entreprise, ou en tout cas le pragmatisme. À défaut d'être sincère, les entreprises savent que si elles ne vont pas dans cette direction de manière très massive, elles perdront leurs collaborateurs, leurs clients. Et aujourd'hui, on voit bien même les investisseurs financiers qui demandent, on l'a vu récemment dans l'actualité, aux entreprises d'avoir un plan de transformation écologique extrêmement vigoureux et concret.
C'est stratégique pour les entreprises aujourd'hui. Par exemple, tiens, on parlait du plastique. Le plastique, ça a tendance à disparaître ?
Alors, le plastique aujourd'hui... Moi, je vois, en tout cas dans la grande distribution, sûrement pas assez vite, mais c'est obsessionnel dans la grande distribution en France et en Europe, c'est obsessionnel de réduire les emballages plastiques. Donc, quand vous avez des boîtes, je vois des boîtes que je ne vais pas les citer parce que voilà, chacun son histoire, mais moi, je vois au quotidien des clients qui sont vraiment très, très à la manœuvre. Et quand des géants comme Carrefour, comme Auchan, comme Leclerc décident d'y aller, l'impact est fort, donc c'est important et c'est en mouvement.
Et c'est en mouvement, notamment chez les jeunes, c'est plus négociable, c'est-à-dire que ça c'est l'opinion publique, l'opinion des jeunes est faite.
Les jeunes en fait sont complètement sidérés de voir que, on l'a vu récemment avec des ingénieurs, on l'a vu avec cette jeune fille qui s'est... enchaînés aux filières Roland-Garros, qui sont des jeunes plutôt... c'est pas les seuls, ils n'ont pas le monopole de ça, mais des jeunes très éduqués, des jeunes qui sont plutôt appelés sur le papier à prendre la relève, à avoir des postes à responsabilité, et qui sont absolument en sidération, en désaccord, en lutte presque violente contre la génération d'avant, la nôtre, qui aujourd'hui, face aux équations, ne va pas assez vite. Donc c'est objectif. Donc comme je pense que moi, je ne rencontre plus de dirigeants qui doutent. Et donc le sujet maintenant, c'est la vitesse à laquelle on fait tout ça.
On parle souvent de politique hein, dans Europe Midi, et c'est de la politique bien sûr, hein, c'est même l'un des premiers sujets évidemment. Question d'un confrère de Paris Match au sujet de votre livre, et c'est dans le document de presse quoi, que j'ai lu ça et je trouvais ça intéressant. Faut-il en arriver au fascisme pour sauver la Terre ? Est-ce qu'il faut imposer des mesures pour sauver la Terre ? Parce qu'on a peur, hein, très honnêtement, quand on lit votre livre. On a peur, l'eau monte, tout est remis en question. C'est pas un roman joyeux, c'est un roman qui vous prend aux tripes. Hein.
Il y a des notes d'espoir.
Il y a quelques notes d'espoir.
C'est une question qui est très intéressante. C'est la première fois, si vous voulez, que vous avez potentiellement un courant politique, on va dire l'écologie, qui n'est pas assise sur de l'idéologie, mais qui est assise sur des équations. C'est-à-dire qu'en gros, le réchauffement climatique, la pollution, tous ces trucs-là, c'est des scientifiques, c'est des gens Covici, c'est des polytechniciens. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens articulés et scientifiquement équipés nous décrivent les choses. Et donc, ce qui était intéressant, c'est dans le précédent, dans R, c'est de dire, mais face à ça, face à cette équation, comment se fait-il que l'écologie soit partisane ? Et donc, on a émis l'hypothèse, pour un peu faire bouger les lignes, que puisque l'écologie est prisonnière, alors que tout le monde est d'accord, tout le monde aime la nature, de gauche, oui, de droite, du milieu, les grands, les jeunes et tout, on va par l'absurde, j'espère, on a mis en place, dans le premier livre qui est R, une dictature écologique. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est affreux pour les libertés, c'est horrible, mais ça marche. Et donc on met un peu tout le monde dans cette espèce de contradiction qu'on a tous en nous. On a une partie de nous qui sait que ça ne peut plus continuer, on a une partie de nous qui aimerait bien refaire un tour de manège. Et voilà. Et ça, les jeunes, eux, ils sont plus vigoureux. Donc nous, ce qui nous intéresse avec Bertil, mon co-auteur, c'est vraiment d'écrire des histoires, de la fiction, avec des personnages, avec des dilemmes, avec des enquêtes et tout. Et en même temps, de mettre dans la tête de chacun de nous de faire en sorte que tout le monde soit mis en mouvement. Tous les gens qui ont lu deux bouquins, enfin l'un ou l'autre, nous disent « Ah, je dois dire qu'après, je me suis mis à recycler. Après, j'ai vu les choses un peu différemment. » Pourquoi ? Parce que ce n'est pas idéologique, c'est émotionnel et scientifique. Et c'est ça qui est intéressant dans la fiction, c'est que ça fait bouger les lignes. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas politicien. En revanche, j'espère qu'avec ce livre, ceux qui ont le premier a très bien marché, celui-là semble bien démarrer, fait bouger les lignes et peut mettre d'accord quelqu'un qui est mélenchoniste et quelqu'un qui est à l'autre bout du spectre, ou quelqu'un qui est LREM ou ce que vous voulez, quelqu'un qui est LR et qui, à un moment donné, se dit à la fin, on se baigne tous dans la même mer, on respire tous le même air.
C'est pas le sujet, la politique politicienne, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la sauvegarde de la planète, la sauvegarde de l'humanité, accessoirement. Frédéric, vous nous appelez d'Arcachon. Oui. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de me prendre à l'antenne.
Ah bah merci à vous d'avoir appelé le 3921. Vous savez que le livre se passe à Bordeaux, hein ?
Oui.
Hein ? Bon, et vous voyez dans le bassin d'Arcachon.
Et Arcachon.
Oui. Et Arcachon.
Oui.
Et vous, justement, vous dites que dans le bassin d'Arcachon, la faune et la flore ont totalement été détruites.
Oh, totalement, on ne peut pas les... Bon, mais elle a été bien entamée parce que, si vous voulez, excusez-moi l'expression, mais moi bon, j'ai connu, bon, j'ai maintenant, je suis d'un certain âge, j'ai connu ma jeunesse, bon, j'ai connu, bon, le symbole du bassin, c'était l'hippocampe. Alors l'hippocampe, il en reste, mais vous savez, dans un coin, ils sont très protégés dans le bassin. Il y a une si vous voulez, même des petits, toute la faune à marée basse, il y avait des Bernard l'ermite, il n'y en a plus, il y avait... Enfin bon, si vous voulez, c'est devenu aseptisé. Alors, il y a les huîtres, mais les huîtres, c'est pareil, maintenant, on est dans les triploïdes, beaucoup. Alors, on ne sait pas, là, d'ailleurs, quel avenir ça va donner, cette histoire-là. Mais, je vous dis, il y a une désagrégation. Alors, le bassin est enfermé, donc, est bien sûr, très, très fragile, beaucoup plus fragile, d'ailleurs, que l'océan encore, mais l'océan, c'est pareil. Si vous voulez, il y a... vous avez une... L'océan est devenu vraiment une véritable décharge, si vous voulez, de tout le monde. Et ce que je crains beaucoup au milieu de tout ça, c'est surtout cette pollution qu'on ne voit pas, c'est-à-dire cette pollution, les déchets radioactifs qui sont balancés dans des containers de ciment, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est le début de la chaîne alimentaire. Vous savez, je suis vraiment très pessimiste, hein, honnêtement, ouais. Très pessimiste, parce que il y a une surexploitation aussi du poisson pour des questions, bien sûr, de nourriture humaine et tout ça. On est dans un cercle infernal et je pense que ça finira très mal. Hein.
Vous dites, il y a un vrai manque de civisme de la part des gens, oui. Mais c'est un peu ce que décrit Raphaël Deandréis,
oui.
Non
oui.
C'est-à-dire que à la fois, tout le monde a envie de faire quelque chose. Et à la fois, je vais reprendre l'expression parce qu'elle m'amuse, elle est très parlante, tout le monde a envie de refaire un tour de manège. En clair, on a tous
exactement.
Envie d'aller passer un week-end à Barcelone avec un billet d'avion à 30 euros et à se dire, c'est pas terrible.
Voilà. Et là, avec l'époque des vacances du tourisme, bon, alors là, c'est bon. Vous avez des zones qui ne devraient pas être navigables, tout du moins avec des bateaux à moteur, laisser la voile. Ça devient, si vous voulez, c'est malheureux. Alors, bien sûr, on a des grandes idées, on est tous... vous savez, c'est comme l'écologie, on dit écologie politique, non, l'écologie, elle n'est pas politique, c'est transverse à tout le monde,
ouais.
C'est notre survie, et il faut de l'écologie, mais raisonner, hein, et on est plein de bonnes idées, on a un petit coup de Greenpeace de temps en temps, comme je dis, machin, mais non, puis après, on retombe dans les mêmes errements, et bon, c'est... Je pense qu'un jour, on le paiera très cher.
Une petite source d'espoir, Raphaël Deandréis, nous disait que les très grands patrons ont totalement changé leur point de vue sur l'écologie, sur ce qu'il faut faire. C'est plus du tout un gadget, c'est terminé ça. Maintenant, c'est une vraie prise de conscience. On va continuer évidemment à en parler, on fait une petite pause pub et on se retrouve à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.
Voilà, troisième chanson en rapport avec la mer. Il y en a plein d'autres, évidemment. Ce sont des choix totalement subjectifs. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà, une phrase de Joseph Kessel. Soufflé par Dominique Lavanant à Renaud, qu'il a reprise dans sa célèbre chanson « Dès que le vent soufflera », chanson dédiée aux amoureux de la mer. On en parle aujourd'hui de la mer. Dédiée aux amoureux de la mer et aux marins pêcheurs qui en vivent. Hein. 17% des animaux marins pourraient disparaître d'ici 2100 si les émissions de CO2 gardent leur niveau actuel. 17% des animaux marins qui pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. On en parle parce que c'est aujourd'hui la journée internationale, journée mondiale de l'océan organisée par les Nations Unies. On en parle avec vous au 39-21, comme tous les jours, vous avez la parole, vous appelez et vous témoignez. Et on est aujourd'hui avec Raphaël Deandréis, qui est auteur, avec Bertil Scali, d'un thriller écologique, Mer, M-E-R, voilà, qui se passe à Bordeaux, en Gironde, en 2100, avec l'eau à cause du réchauffement climatique qui est monté jusqu'à Bordeaux. Bordeaux qui est devenue une ville quasiment invivable, hein, Raphaël Deandréis. Hein.
Oui, c'est devenu une espèce...
On s'y déplace en bateau. Hein.
On s'y déplace en bateau, en hydroglisseur. Il
ouais.
y a des plateformes sur lesquelles s'entassent des migrateurs pour partie venus d'Australie.
Des migrateurs qui sont, alors je traduis enfin, dans votre livre,
des migrants. Oui, pardon,
hein,
voilà. On les appelle migrateurs.
Vous l'appelez,
pour
essayer de sont des hommes. Hein.
Des hommes et des femmes. Ouais. Venant pour la plupart de pays riches, étant plutôt des occidentaux, et certains d'entre eux, et dont en particulier une jeune fille, disparaît, parce que dans ce monde submergé, au fond, il n'y a plus d'éthique, plus de morale, chacun se bat comme il peut, et que, évidemment, les pires instincts de l'humanité submergent, sont les seuls à être capables de survivre dans ce contexte. Une jeune fille de 20 ans disparaît, et un couple de flics un peu mal assortis, une jeune lieutenante, elle-même historiquement issue de migration, mais bien avant africaine, et un vieux briscard, de quasiment à la retraite. On se dit que ce couple de flics, ne fera pas de remous et enterrera, enfin, ne sera pas capable de dénouer cette affaire de disparition de migrateurs. Mais ce couple mal assorti finalement est très déterminé. Très humain, au fond, dans ce monde qui l'est quasiment plus, et va mener l'enquête et va remuer tout ce qu'il y aura à remuer, et ce n'est pas joli.
et ce n'est pas joli, voilà. Et vous, c'est un roman, mais comme une alerte hein, à tout le monde. On en parlait juste avant la petite pause, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, de partout, ça s'adresse à tout le monde. Alors, il y avait la petite chanson de Renaud, là, adresse aux marins pêcheurs. La mer est encore nourricière dans votre livre en 2100. Je pose la question, est-ce qu'il y a encore des poissons? Parce que il y a le menu de la cantine au commissariat. Qu'est-ce qu'on y mange? Un mélange d'oignons frits, de pommes de terre bouillies et de soupe de méduse. L'invariable plat du jour maison, c'est méduse tous les jours. C'est pas souriant.
Oui, enfin, on sait d'abord avec le réchauffement des eaux, c'est vrai. Enfin, on essaie toujours d'avoir un fond réaliste. Donc, oui. Avec le réchauffement des eaux, vous avez des méduses. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une invasion de méduses. Donc, ça devient, comme c'est d'ailleurs dans certains cas, dans certains, notamment en Asie, c'est des soupes de méduses, ça existe. Donc, les gens oui. les mangent. Autre chose que vous n'avez pas cité, mais il y a beaucoup de requins qui envahissent le bassin d'Arcachon.
Et des alligators.
Et des alligators. Donc on mange, il y a des barbecues de requins. Voilà, et il y a malheureusement de temps en temps des enfants qui se font dévorer par des alligators parce qu'ils s'approchent trop du bord. Donc on essaye aussi de rendre... Voilà, de rendre imagé ce que c'est que des eaux qui se réchauffent.
Ouais, ouais.
Et concrètement, ce serait ça.
Et dans votre livre également, tous ceux dont on parle aujourd'hui pour se protéger de la montée des eaux, et je pense notamment aux digues, se s'avère être totalement inefficace. On en a la preuve. C'est vraiment un sparadrap sur une jambe de bois, une digue en réalité.
C'est un peu, je dirais, l'homme est présomptueux, l'homme croit toujours qu'il va trouver la solution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne trouvera pas des solutions. On pense que, c'est sûr que les solutions technologiques seront une partie de la réponse. Mais si on pense qu'il suffit d'être bon en maths pour empêcher la nature de se rebeller, on se trompe. Donc, il faut être bon en maths parce qu'il y a plein de solutions, de la captation carbone, des tas de protections. Mais ça ne suffira pas. Il faut drastiquement baisser notre CO2. D'ailleurs, on parlait de l'aérien tout à l'heure. L'aérien est dans un mouvement de transformation phénoménal. Donc, est-ce que ça ira assez vite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'aérien qui a bien compris l'enjeu, le numérique aussi. On parle beaucoup du numérique, mais le numérique est un sujet. Donc, on voit bien qu'on doit tous...
Parce que ça émet du CO2.
Oui, oui. Alors après, il y a aujourd'hui le Green Code qui est en train d'arriver. Il y a plein de choses. Il y a des gens... On peut regarder la télé en basse définition, le streaming. Ça se passe très bien. Il y a des gens très... Canal, par exemple, a une option Green Def dans MyCanal. Donc, c'est très possible de faire tout ça. Simplement, à la fin, il faut réduire nos émissions. Et la science ne pourra pas tout résoudre. Votre expression « sparadrap sur une jambe de bois » me paraît... très, très, très adapté.
Approprié, adapté. Vincent, 24 ans, de Gironde. Encore un appel de la Gironde. Bah oui, le livre se passe en Gironde. Bonjour Vincent.
Bonjour, vous m'entendez?
Très bien, vous êtes à l'antenne même.
Parfait.
Vous avez 24
très
ans.
Bien.
Vous vous sentez très concerné par la catastrophe climatique qui pointe à l'horizon. Hein.
Ah oui, clairement. C'est un peu une angoisse des jeunes. Hein. Monsieur Deandréis en parlait déjà. Là, clairement, on n'est pas serein. Après, il y a plein de moyens. Il ne faut pas perdre espoir parce que sinon, il n'y a rien à l'horizon. Pas de cap.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Étudiant en droit.
En droit, bon.
Ouais.
Étudiant en droit, oui.
Prépare l'examen d'avocat. Ce n'est pas très, très marrant.
Bon. Mais pour sauver nos océans, je considère qu'il faut s'attaquer à trois points. Hein, c'est ce que vous dites. Quels sont ces trois points?
Les trois points, c'est déjà la pêche intensive. Parce qu'en fait, c'est à la base de tout. Premièrement, la pêche intensive, d'ailleurs, la France était censée donner l'exemple, mais finalement, dans les dernières commissions européennes, le groupe de notre président de la République n'a pas forcément été dans le sens que l'on aurait souhaité, étant donné qu'il y a des zones de protection de pêche qui étaient normalement interdites et ouais. qui n'ont pas forcément qui ont été levées. Hein, voilà, c'est un peu dommage.
Donc, pêche intensive numéro 1, en numéro 2.
Pêche intensive en numéro 2, en fait, ça pourrait être un véritable potentiel d'exploitation énergétique, la mer, et c'est déjà un peu le cas, mais pas suffisamment. Les hydroliennes, l'énergie des vagues, l'énergie des courants, tout ça, c'est des choses vraiment, vraiment importantes. Et puis après, en troisième point, ce qui est grave, c'est les plastiques. Quoi.
C'est les plastiques, ça, c'est le sujet,
Ah bah, enfin, c'est-à-dire
c'est
que c'est
un
très
des sujets, mais
que...
c'est celui qui frappe vraiment les plastiques. Et vous êtes optimiste ou pas en quelques mots pour l'avenir? Vous dites ma génération va réussir à changer les choses, à faire dévier le navire, qui est difficile à manœuvrer.
Vous savez quoi ? Vous savez quoi là-dessus, franchement ? Je crois qu'il va y avoir deux étapes. La première, ça va être l'incitation, comme d'habitude. Et si ça marche pas, en fait, je pense qu'on pourra pas faire autrement que mettre en place des solutions de dictature, et ce sera grave pour les libertés, et, les libertés fondamentales, les libertés des gens au quotidien. Mais si on se bouge pas, en fait, sur les 3 ou 5 prochaines années, ensuite, ou même les 10, je ne sais pas, mais le moment où notre génération va arriver, on ne pourra pas faire autrement que faire mettre en place des dictatures.
Il faudra la méthode dure. Bon, espérons qu'on n'arrivera pas à ça. Merci
beaucoup. C'est le sujet de mon premier roman.
Merci beaucoup, Vincent. C'est le sujet de votre premier roman, Raphaël De Andréis. Et vous disiez, voilà, pourquoi pas peut-être des quotas de droits à kilomètres parcourus en avion ou en voiture. Bon. En tout cas, c'est sur la table.
Ce qui est marquant, c'est l'angoisse et la sincérité qui transparaît de cet auditeur. Donc, je pense que notre génération doit la prendre en compte.
Raphaël De Andréis, merci beaucoup d'être venu, auteur du livre « Mère avec Bertil Scali ». Merci d'être venu dans Europe Midi. Très bonne journée à vous. On se retrouve demain dès 5h55. Non, demain dès 5h55. Demain dès midi, évidemment, sur Europe 1 pour... une nouvelle émission Europe Midi. Tout de suite, c'est Carole Ferry. Carole Ferry pour La France Bouge. Bonjour Carole.
Bonjour Romain et merci et à demain.
À demain midi.